vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous toujours en télétravail? Certains d'entre nous le sont de moins en moins. Par exemple, les fonctionnaires, ils doivent retourner à leur bureau une grande partie du temps travaillé à la semaine. Le gouvernement fédéral exige que le personnel employé par le Conseil du Trésor travaille au bureau au moins 3 jours par semaine. C'est 4 jours pour les cadres. Du côté du gouvernement québécois, le travail hybride est encouragé, mais les employés doivent tout de même pointer 2 jours au bureau par semaine. 6 ans après le début de la pandémie, qui a démocratisé le travail hybride, de nombreux travailleurs réalisent toujours une grande partie de leur travail à la maison et ne voudraient pas retourner à temps plein au bureau. Le télétravail se poursuit, mais que sait-on sur son impact sur la performance, sur la santé physique et mentale? Nous allons voir ça tout de suite. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous allons voir quels sont les défis du télétravail et ceux du retour au bureau, comme le vivent de nombreux fonctionnaires fédéraux depuis 1 an. Pour en parler, je suis en compagnie de Tinian Oul-Younes, qui est psychoéducatrice et directrice de la clinique Psychoéducation. Bonjour.
Bonjour.
J'ai aussi avec moi Tania Sabat, la titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et qui est professeure titulaire à l'école de relations industrielles. Bonjour, professeure Sabat.
Oui, bonjour Isabelle.
Et je suis aussi en compagnie de Diane Gabrielle Tremblay, qui est la titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la société du savoir et professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université Lattay-Luc. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Donc depuis 1 an, le gouvernement fédéral exige qu'une partie de son personnel retourne au bureau au moins pour 3 jours par semaine. Le travail hybride est encouragé par le gouvernement québécois à condition de passer tout de même 2 jours par semaine avec ses collègues. Donc santé physique, santé mentale, performance et même cohésion de l'équipe de travail, le télétravail agit sur tout ça. Ça a transformé le travail pour bon nombre d'entre nous. Je vais commencer avec vous, professeur Tremblay. Vous faites des suivis sur l'imposition de retour au bureau et les raisons pour les employés fédéraux. Expliquez-nous pourquoi nous assistons à ce retour du balancier ou l'impression qu'on en a.
Oui, on pourrait dire que c'est peut-être un peu étonnant, surtout que les entreprises en technologie de l'information qui avaient commencé le bal au moment de la pandémie et qui disaient, bon, on va développer le télétravail de manière importante, voire à plein temps, ils ont été probablement les premières, là, dans la plupart des pays, à ramener les gens au bureau. Là, en ce moment, moi, je suis en France et en fait, en Europe, ça fait un petit moment déjà, en Europe du Sud en particulier, que le rappel au bureau a été, disons, une tendance avant même que ce soit le cas. Là, chez nous au Québec. Et on a mené, nous, une enquête toute récente et on a demandé aux gens, justement, s'il y avait des changements. Est-ce que leur employeur demandait davantage de jours de présence obligatoire au bureau? Et 44% des répondants nous ont dit que, oui, effectivement, la formule hybride avait changé. Dans la moitié des cas, 21%, on demandait plus de jours obligatoires au bureau. Dans 20%, un autre, pourcentage, là, on demandait, au fond, les employeurs souhaitaient, mais pour le moment, c'est pas encore imposé. Alors, je pense qu'on est un peu dans cette situation un peu intermédiaire dans plusieurs organisations où des employeurs ont soit déclaré ce sera obligatoire sous peu, ou alors tentent d'inciter, disent aux gestionnaires, il faut ramener vos équipes au bureau. Alors, on est encore dans un contexte assez mouvant, mais clairement, il y a une tendance vers le retour au bureau. Les employeurs disent que c'est parce que les gens vous avez mentionné l'idée des collectifs de travail et tout ça. Et donc, les employeurs tendent à dire que oui, il manque un peu du sentiment collectif. Peut-être la loyauté pourrait se réduire. C'est ce qui est mis de l'avant. Et même certains disent plus de créativité en équipe, en présentiel, ce qui n'est pas nécessairement faux. Mais est-ce que ça exige que les gens y soient 4 ou 5 jours? Ça n'est pas évident. Et il faut voir aussi ce qu'on leur demande de faire au bureau. Si on est en réunion Zoom avec d'autres personnes à l'extérieur, ça n'est pas nécessairement pertinent. Et puis, c'est clair que pour les employés, la plupart d'entre eux, on le voit avec le gouvernement fédéral, les syndicats. Maintenant, les syndicats défendent le télétravail, alors que il y a 10 ou 15 ans, c'était c'était l'inverse. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient que leurs membres soient sur place. Mais maintenant, c'est clair que la plupart s'opposent à ce retour au bureau.
Oui. Professeur Sabat, est-ce que l'imposition de ce retour au bureau compromet cette tendance bien appréciée des employés? Entre d'autres mots, sommes-nous à la croisée des chemins de cette transformation du travail, selon vous?
Nous sommes absolument à la croisée des chemins, mais malheureusement, ce n'est peut-être pas en train de prendre une bonne, de bonne directive ou une bonne tendance. Et la raison principale, je pense que Diane a fait un très, très bon portrait des raisons qui ont fait que les employeurs exigent ce retour au travail. Moi, je dirais que le problème essentiel, c'est que toute l'expérience qu'on a vécue pendant la pandémie a été et qui a été très riche de voir vraiment émerger une nouvelle façon de voir les choses, puis de garder certainement un pourcentage du temps de travail qui pouvait se faire à distance pour des raisons de flexibilité, d'équilibre travail-famille, vie personnelle, santé, pour des questions d'appropriation du temps, mais essentiellement pour aussi des questions de productivité, parce que quand même, des gens se sont dit aussi plus productifs au travail. Le problème, c'est qu'on a vu cette nouvelle modalité seulement, puis essentiellement, sous une lentille d'aménagement du temps de travail. C'est-à-dire de décider combien d'heures, combien de jours faut-il être en présence, combien d'heures ou de jours faut-il être à distance. Alors que il aurait fallu voir comment est-ce qu'on peut réorganiser le travail, garder des capacités de créativité, de résolution de problèmes, de développement des sentiments d'appartenance, de contrôle du travail, de flux du travail à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur de cette modalité, donc à la lumière de cette modalité qui fait en sorte qu'on va travailler dans deux lieux différents, mais avec quand même des technologies qui sont de plus en plus développées. Puis je vous rappelle que les personnes qui ont pu avoir droit à ces modalités ou justement faire profiter l'économie de du télétravail, ben ce sont essentiellement des professionnels. Donc, ils sont quand même dotés d'une certaine autonomie.
Madame Houle-Younès, le télétravail peut être source de satisfaction, mais pas toujours. On pense à l'isolement, à la santé psychologique. Donc, contrer la solitude. Parlez-moi un peu de santé mentale, finalement, de ces employés-là, des gens qui télétravaillent.
Ben, il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes rapportent en fait un sentiment d'appartenance amoindri. Faut savoir que les théories sur le sentiment d'appartenance et la théorie de l'attachement veut que les connexions sociales soient un besoin fondamental chez l'humain.
Oui.
Et quand on n'est pas au bureau, quand on croise pas ses collègues le matin pour dire « Ah, ton café, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid ?» on perd ses micros interaction là, ce qui fait en sorte que quand on se rencontre par des rencontres, par des visioconférences, on est vraiment uniquement axé sur le travail et on perd toute cette sphère là. Moi, dans ma pratique privée, j'ai des clients qui me rapportent que de toute la journée, ils n'entendent pas le son de leur propre voix, et ça contribue à l'isolement social. Par contre, il y a beaucoup de personnes en fait qui rapportent que en moyenne, en fait, ils gagnent 60 minutes par jour, donc une heure par jour qu'ils auraient perdu dans les transports en commun.
Et donc moins de fatigue, c'est ça?
Moins de fatigue, oui. Et il y a 90 minutes dans la semaine qui est récupérée grâce au télétravail pour des tâches ménagères ou passer du temps avec la famille. Donc ça, c'est un point positif. Après, il y a le point de la diminution des frontières entre travail et vie personnelle qui vient s'incruster aussi dans cet enjeu-là de télétravail. Donc, il y a des points négatifs par rapport à l'isolement, mais il y a des points aussi très positifs par rapport au sentiment de rapprochement avec sa famille. Voilà.
Oui, tout n'est pas blanc ou noir. Professeur Tremblay, quels sont les avantages pour les employés d'être en télétravail?
Ben, clairement, le premier avantage, c'est la conciliation des temps sociaux ou, bon, vie personnelle, vie professionnelle. Ça, année après année, la très grande majorité, encore nous, une enquête récente nous dit 80% pratiquement des personnes, c'est une enquête avec Concilivie qui nous indique que 80% des personnes considèrent que la conciliation emploi-famille est clairement plus facile. On a aussi posé des questions sur la question du partage des tâches parce qu'il y a eu quelques petites, on peut dire peut-être des écrits un peu anecdotiques ou dans les médias, telle ou telle personne ou telle entreprise, quelques cas. Mais quand même, de fait, bon, on a certains hommes qui disent en faire un peu plus. 41% qui disent en faire un peu plus. Mm-hmm. Les femmes, à peu près la moitié, disent faire un peu plus. Et c'est vrai que le fait d'être à domicile peut faire qu'il y a un report de ce débordement, au fond, là, des tâches domestiques sur le travail. Quand même, un bon pourcentage, le tiers, disait que ça n'avait pas d'effet, que ça n'avait pas changé la répartition du travail. Par contre, comme Tania l'évoquait, ça n'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail. Il y a des professionnels, il y a aussi des personnes employées de bureau, administratives. Et ces femmes-là, très souvent, ben, si leur conjoint n'est pas aussi à domicile, c'est fort possible qu'elles se voient imposées dans une certaine mesure ou incitées à faire davantage de tâches domestique. Il y a un autre élément qui, bon, on évoquait un peu le débordement du travail sur la famille, où on peut dire parfois un peu l'inverse. Ça peut être difficile lorsque on n'a pas suffisamment d'espace, qu'on a des enfants qui reviennent ou le conjoint. Et il y a aussi dans cette enquête, à peu près la moitié des personnes disaient que la déconnexion est plus difficile à domicile. Et un autre élément sur lequel on a interrogé les gens que j'avais pas encore beaucoup vu, c'est sur la question du soutien des collègues ou du soutien du supérieur. Et là aussi, on a un bon pourcentage de personnes, à peu près la moitié, qui nous disent que les collègues sont moins soutenants lorsqu'on est en télétravail. Alors, ça renvoie un peu, c'est ça, à ce collectif de travail, la présence. On peut demander à quelqu'un, c'est peut-être plus facile que de lancer, bien sûr, on peut envoyer un message, là, Teams ou autre, là, pour solliciter de l'aide. Mais il semble que presque la moitié des cas, les gens, autant les supérieurs ou les gestionnaires et les collègues, le soutien semble un peu réduit. La collègue qui mentionnait la question de l'isolement, il y a quelques années, même avant la pandémie, on avait aussi vérifié, et c'est vrai que il y a un certain nombre de personnes qui disaient souffrir un peu d'isolement. On avait seulement un taux d'à peu près 10%. C'est certain que c'est plus les personnes qui vivent seules, et encore, elles sont peut-être plus confortables pour faire du télétravail, d'un autre point de vue. Mais elles pouvaient dire aussi, encore tout récemment, dans la dernière enquête, que le réseautage était amoindri, et certaines personnes, un peu plus les hommes, avaient des craintes par rapport à leur promotion, leur carrière et tout ça. Donc, la question de l'isolement, elle est là. Mais on avait fait des entrevues aussi, et dans les entrevues, c'était intéressant parce que les gens nous disaient, ben, on développe peut-être d'autres réseaux. Alors oui, il y a un peu d'isolement peut-être par rapport aux collègues de travail, mais peut-être que le message qui s'est développé aussi au fil des ans, c'est qu'il y a d'autres réseaux de loisirs, de sport ou autres qui peuvent se développer pour compenser.
Je vote pour la science est toujours une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Bonne écoute. Professeur Sabat, est-ce que les travailleurs sont moins productifs en télétravail?
On a fait d'abord comment la productivité est mesurée, ça c'est une très grande question, bien entendu. C'est souvent comment eux perçoivent, donc comment les personnes perçoivent leur rendement. Moi, je vous dirais que on n'a pas d'études encore qui peuvent le montrer ou pas. Puis de toute façon, est-ce que c'est l'effet du lieu de travail qui va avoir un effet sur la productivité? Ou est-ce que, encore une fois, c'est comment le travail est organisé, les relations avec les collègues, la capacité d'apprendre, d'apprentissage, les collaborations, le réseau, la capacité d'avoir l'information. Donc, il y a tellement plus de choses qu'il faut regarder, de facteurs qu'il faut regarder pour ensuite déterminer si la personne peut être productive ou pas. Le lieu, je ne pense pas que ce soit l'effet, et il ne faut pas oublier que les modalités hybrides, mais surtout cette capacité de travailler à distance, à part les avantages que déjà Diane a pu nommer, il ne faut pas oublier les emplois en région, par exemple, des personnes qui sont en région, qui ont pu plus travailler, des personnes qui sont dans des situations de handicap, qui avaient des accessibilités plus faciles aussi. Et donc, il y a quand même des avantages quand on pense surtout à des grandes entreprises, qu'on pense aux services gouvernementaux, donc de ce point de vue. Oui. Il faut regarder les risques. C'est les risques, en fait, qui peuvent avoir un effet sur la productivité. Et les risques, et encore une fois, d'une dernière étude que nous avons effectuée pas plus tard que l'an dernier, on voyait des scores plus faibles en apprentissage, en communication interpersonnelle, en capacité d'organisation du travail. Le climat de travail, par exemple, comment maintenir un bon climat de travail, comment est-ce que la qualité du service, ce sont les personnes qui disaient peut-être que je produis une qualité de service qui peut être perçue comme moindre. Est-ce que j'ai le soutien de mon gestionnaire, ma gestionnaire pour faire mon travail? Est-ce que j'ai la technologie qui est adéquate? On dirait qu'on a utilisé les technologies présentes, mais il faut développer des technologies encore plus adaptées justement à de la créativité, à une meilleure un flux de communication qui soit plus facile sur les espaces de travail. Encore une fois, on est dans exactement les mêmes espaces, plus de bureaux partagés qui sont en général pas nécessairement reconnus pour être les meilleures configurations en termes de productivité.
Oui. Madame Lyonnaise, quel est le rôle des entreprises pour faciliter ce mode de travail selon vous?
Je vous dirais qu'on commence par la prévention, tout d'abord. Donc, ça serait intéressant. Puis, je dis intéressant, mais il y a des entreprises qui le font déjà. Donc, des ateliers de prévention sur les risques du télétravail.
De l'isolement, finalement.
L'isolement et l'épuisement, finalement, parce que la fatigue numérique, c'est très moderne. Et on est constamment en hyperactivation au niveau du cerveau par rapport à tous les écrans tout le temps. Donc, faire de la prévention sur ça. Si on peut mettre en place des outils, par exemple des contrats d'équipe où on se met d'accord, où on ne s'envoie pas des courriels à 23h par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire appel à des programmes d'aide aux employés. Ainsi, l'accès aux services d'aide en santé mentale est à tarif réduit. Donc ça peut aussi un petit peu briser la fracture sociale au niveau des coûts de l'accès.
Pour chacun,
les services d'aide en santé mentale. Donc c'est ça. Je dirais que d'abord les gestionnaires doivent faire de l'éducation psychologique sur ce nouvel enjeu, ce que ça peut apporter comme de positif comme de négatif, et ensuite le proposer à leurs employés autant dans la prévention que dans l'intervention vraiment avec leurs employés.
Oui, parce que le télétravail, c'est pas juste de la technologie, il y a aussi un écart entre les souhaits des employés et ce que veulent les employeurs aussi. Quels sont les principaux défis du côté des organisations, professeur Tremblay, selon vous?
Ben là, en fait, moi, il me semble qu'il y a un paradoxe un peu dans ce désir des organisations de ramener les gens au bureau, alors que dans beaucoup de cas, ils ont transformé les espaces, ils ont réduit les espaces, ils en ont fait des aires ouvertes. Mm-hmm. Et nous, on vient de mener justement une recherche avec l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Et dans le cas des aires ouvertes, les gens considèrent qu'il y a quand même beaucoup de distractions, des distractions sonores, des distractions visuelles quand les gens passent autour de nous, quand il y a des conversations et tout. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu. Je crois que les employeurs devraient vraiment réfléchir à leur objectif réel. S'ils veulent que les gens conservent ce sentiment de collectif, d'équipe de travail, les ramener au bureau par équipe, peut-être que toute l'équipe y soit ensemble, justement, et qu'ils puissent avoir cette dynamique collective, mais peut-être qu'ils devront rester à ces 2-3 jours, qui sont d'ailleurs ce qui est préféré. La Statistique Canada avait quand même des données là-dessus. La préférence était plutôt autour de 2-3 jours, avec vraiment à peu près 10% et un peu plus de femmes qui préféraient tout à domicile et à peu près 10% aussi qui préféraient entièrement au bureau. Donc, tout le monde ne souhaite pas la même chose, mais je crois que les employeurs sont vraiment appelés à réfléchir à cette organisation du travail pour à la fois satisfaire les demandes et les souhaits de leurs salariés, parce que sinon, il y aura effectivement une très grande insatisfaction dans un contexte en plus où, bon, il y a peut-être un peu moins de pénurie de main-d'œuvre là depuis un an, mais quand même, il y en a beaucoup dans plusieurs secteurs et dans plusieurs milieux des secteur des services. Donc, je crois que les employeurs n'auront pas le choix. On évoquait tout à l'heure là l'idée que des gens en région aussi ont un peu plus accès. Une fois que des entreprises ont commencé à embaucher des gens dont elles savent qu'ils habitent à une heure ou deux, c'est assez difficile, voire impossible, de leur dire tout d'un coup, ah ben finalement, il faut que vous reveniez au site central de l'organisation. Alors, je pense qu'il y a quand même des défis à réfléchir. Le télétravail, à mon avis, est clairement encore là pour rester sous forme de modèle hybride là, que tout le monde semble bien préférer et qui apporte effectivement des avantages autant aux individus qu'aux organisations. Mais il y a des discussions et certainement que ça va se faire, ça a déjà un petit peu commencé dans des organisations syndicales et dans d'autres milieux où on trouve quand même des représentants, disons, des employés pour échanger. Mais certainement, à mon avis, ça va continuer à être un peu fluide pendant quelques années.
Oui, c'est sûr. Professeur Sabat, quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient améliorer l'expérience des employés en mode hybride? C'est sûr qu'on pense aussi à la santé physique, on a parlé de santé mentale, mais on pense à la sédentarité, à l'équilibre de vie, l'ergonomie aussi.
Il faut investir dans les conditions matérielles et technologiques, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les espaces, mais que ce soit dans les technologies. Quand vous parlez de déconnexion, vous pouvez avoir une politique de déconnexion sans avoir une loi et on peut la respecter. Il y a donc toujours des solutions. Mais si à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi on utilise les réunions, si on a 10 réunions virtuelles par jour pour, par exemple, juste donner de l'information, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Peut-être qu'il faut le faire différemment. Peut-être qu'il y a des tableaux maintenant. En tout cas, l'information peut être mise d'une façon différente. La personne ne vous rejoint pas par virtuel, va vous appeler, va vous envoyer un texto, puis un courriel. C'est comme, donc, toute cette flexibilité doit être quand même réfléchie. L'encadrement des gestionnaires, cette idée de rétablir la confiance, puis la confiance n'est pas nécessairement établie parce qu'on voit la personne travailler. Quand même, il faut sortir un peu de ces schèmes qui nous viennent non seulement du siècle dernier, mais de celui d'avant, je vous dirais. Il y a une manière de pouvoir encadrer, il y a une manière de pouvoir faire le contrôle du travail sans nécessairement voir la personne travailler, n'est-ce pas? Et ça aussi, il faut quand même faire évoluer cet encadrement des gestionnaires. Revisiter des bonnes pratiques de collaboration, de cohésion. Les sentiments d'appartenance, on peut les développer de différentes façons. C'est pas vrai que quand vous dites aux gens « venez au travail », que vous allez vraiment améliorer leur sentiment d'appartenance. Probablement que les gens vont se tenir avec des personnes qui leur ressemblent, avec qui ils vont envie de sortir pour le lunch, etc. Mais il faut provoquer des activités, il faut provoquer des moments d'échange, il faut provoquer les réseaux. Et ça, encore une fois, ça fait partie, ce sont des pratiques dont on a parlé, ça fait un petit bout de temps dont on parle, mais là, ils prennent tout leur sens dans des contextes de modalité hybride. Et ensuite, encore une fois, moduler toutes ces attentes, moduler l'organisation selon les fonctions, selon les postes et pas seulement selon des statuts, puis sortir de cette idée de 2 jours semaine, 3 jours semaine, travailler beaucoup plus selon des pourcentages et selon les cycles. Vous avez un projet, peut-être vous demandez à toute votre équipe d'être là pour le lancement, pour les devis, etc. Ensuite, peut-être chacun peut s'absenter, s'absenter du bureau, travailler de la maison, peut-être pour les phases analytiques, etc. On peut se retrouver à un moment donné. Donc, il y a autre chose que la semaine. Revoir les cycles par équipe
de travail,
et surtout
finalement.
Le dialogue. Le dialogue est très important. Il faut parler, les personnes savent vous dire qu'est-ce qui fonctionne. D'ailleurs, quand on fait les études, c'est ça qui est intéressant parce que ce sont les personnes qui nous disent, ce sont les personnes qui identifient les risques, ce sont les personnes qui nous disent comment elles vont pouvoir mieux travailler dans cette nouvelle modalité.
Entendu. Madame Houlyounès, le télétravail pour révéler aussi des inégalités. Tout le monde ne vit pas le télétravail de la même façon, c'est ce que vous devez entendre hein, dans votre cabinet.
Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que les inégalités ont toujours été et seront toujours.
Oui, oui.
Donc, même en contexte de travail présentiel, on les voit, les inégalités. au télétravail aussi. Donc c'est amoindri peut-être, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions, par exemple.
L'équipement, on pense à l'équipement.
Exactement, c'est pas tout le monde qui a le même équipement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions aussi. Mm-hmm. Une mère monoparentale qui a 6 enfants versus un jeune monsieur de 21 ans qui vit en appartement tout seul n'aura pas la même condition, la même concentration, la même capacité à avoir une salle dédiée, un bureau dédié.
La même charge mentale aussi.
La même charge mentale aussi, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on veut penser peut-être à équité plutôt qu'égalité.
Oui.
D'où je fais du pouce sur ce que professeur Saba a dit, que les gestionnaires soient plus proches de leurs employés, qu'il y ait une connexion avec eux pour qu'ils apprennent à évaluer c'est quoi les besoins de chaque employé et ainsi répondre au mieux à leurs besoins. Donc une personne qui a un horaire atypique, par exemple, si on peut peut-être compresser des semaines, compresser les heures, accepter qu'un travail soit fait plutôt à 2h du matin, si c'est ce que la personne peut faire.
Ou à un moment de l'année aussi, parce que la rentrée, on est dans la rentrée, puis c'est des fois difficile, la rentrée à l'école, la rentrée au travail. Il y a peut-être des choses qui peuvent être temporisées un petit peu plus tard dans l'année ou simplement le mois suivant, s'il n'y a pas d'urgence. En fait, y aller avec les tâches, comme disait professeur Saba, et les urgences et aussi la disponibilité des personnes. Je vais terminer avec vous, professeur Tremblay. Est-ce que le télétravail peut être un levier pour la créativité des organisations? Et j'ai presque envie de dire, et des employés aussi, la créativité des employés.
Oui, je dirais que oui, au sens où je pense que quelle que soit la transformation dans l'organisation du travail, dès que l'on amène quelque chose de nouveau, c'est souvent une source de réflexion, en fait, justement, sur les tâches, comment les organiser, comment les réorganiser, comment structurer le collectif de travail. Pour les organisations, c'est certain que depuis quelques années, la réflexion est beaucoup autour de la fidélisation des employés, étant donné qu'il y a quand même une forte concurrence là dans certains secteurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Oui, il y a lieu. Il ne faut pas s'imaginer que tous les espaces de travail demandent de la créativité tous les jours, mais quand même un certain niveau. Et la plupart des études semblaient indiquer, d'ailleurs, avant la pandémie, on avait beaucoup d'organisations qui souhaitaient que les gens travaillent en équipe et surtout des équipes le plus diversifiées possible, hommes et femmes, de différentes origines, de différents milieux, pour avoir un peu cette vision différente. Alors, oui, je pense que les employeurs peuvent, s'ils savent bien organiser le télétravail et carrément le modèle hybride, ils peuvent profiter de cette créativité.
Oui, on est dans la transformation. Merci beaucoup. On était en compagnie de Diane Gabrielle Tremblay, titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la Société du Savoir et professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université Latéluc, de Tania Saba, la titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et professeur titulaire à l'École de relations industrielles, et de Tini Anne Ould-Younes. Elle est psycho-éducatrice et elle est surtout aussi directrice de la clinique, la nouvelle clinique, je devrais dire, c'est, je pense qu'elle a un an sa clinique, psycho-éducation. On mettra tous les liens sur la page. Merci à toutes les trois.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi toujours nous suivre sur la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne, que vous télétravaillez ou pas.
Jing Jiahua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la conscience constitue la seule logique. On y parle.